organisé par l'Association des églises protestantes évangéliques de Belgique. L'église de Woluwe qui nous accueille fait partie de cette association. Et donc nous sommes dans une famille d'églises, mais j'ai appris qu'il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres églises, ou des personnes qui ne fréquentent pas les églises, qui sont là parmi nous. Que vous soyez à l'aise et nous sommes heureux que vous ayez accepté notre invitation. Notre orateur de ce soir, comme vous le voyez, s'appelle Étienne Vernage, mais ça vous le savez puisque vous avez vu les publicités. Alors plusieurs personnes m'ont demandé, mais comment ça se fait que je connaissais Étienne Vernage? Eh bien, l'histoire est assez simple. J'étais à Paris dans une conférence, et lui aussi, et puis on a découvert qu'on avait énormément de points en commun. Non seulement nous sommes chrétiens, mais on s'intéresse tous les deux et on travaille de manière professionnelle dans le domaine de l'énergie. Et figurez-vous que c'est rare de trouver des personnes qui ont les mêmes idées que moi, mais Étienne partage exactement les mêmes idées, je vous l'assure. Enfin, c'est pas rare. C'est d'après ce qu'on entend dans les médias, c'est rare. Mais la réalité est totalement inverse. N'est-ce pas, Étienne? Il y en a beaucoup qui pensent comme nous, et pas comme les médias. Et il m'avait dit à cette occasion qu'il avait été le créateur d'une exposition permanente, un musée, qui s'appelle le Visiatom. Et puis, figurez-vous que j'ai appris qu'il habitait près de chez mon frère en France, et donc, en allant chez mon frère, on a fraternisé, et on a eu droit à une visite particulière du Visiatom avec la personne qui l'a créé et conçu. Parce qu'il y a quelques années d'ici, il se rendait compte que beaucoup de personnes ont peur de la radioactivité, on ne sait pas ce que c'est, et donc tout de suite, on se braque et on a peur. Et il avait proposé au commissariat de l'énergie atomique où il travaille de faire quelque chose pour expliquer la radioactivité aux gens. Et on lui dit non, il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire. Et quelques années après, ils se sont rendus compte que c'était une très bonne idée. On l'a appelé, dit ton idée là, ça nous intéresse. Et il a créé tout un musée. Je vous invite, si vous êtes dans la région de Avignon ou même dans le sud de la France, d'aller découvrir ce que c'est la radioactivité. Il m'a expliqué une histoire pour que vous vous rendiez compte que parfois dans le domaine, il faut être vraiment des spécialistes, sinon on se laisse entraîner à tout vent de doctrine, si vous me permettez l'expression. Est-ce que vous connaissez le bœuf de Fukushima? Le bœuf de Fukushima. Vous connaissez Fukushima, n'est-ce pas? Alors il m'a expliqué une histoire. Supposons que vous mangiez 200 grammes de bœuf qui a été contaminé à Fukushima et que vous voulez en manger tous les jours. Donc ça fait 200 grammes de bœuf tous les jours pendant un an. Et puis, il me fait un petit calcul, multiplié par la contamination, et on arrive à environ 240 000 becquerels. 240 000 becquerels! Mais le becquerel, il faut le transformer en civerte. Ça fait 3,6 civerts. 3,6 civerts! Et les gens ont peur. Alors, la moyenne de la France, en civerte, c'est 2,4. Voilà. Quelqu'un qui a mangé du bœuf contaminé tous les jours, 200 grammes de bœuf contaminé, aura pris moins de radiation que la personne qui vit tout le temps à Clermont-Ferrand. Alors voilà, quand on est scientifique, on peut dire ce genre de choses. Évidemment, les journalistes ne l'écoutent pas. Mais nous, on est là pour l'écouter. Alors, encore un mot sur Étienne. C'est un docteur en physique, et il avait fait sa thèse dans le domaine du verre, et il est rentré ensuite au commissariat à l'énergie atomique, où précisément on développait la vitrification des déchets. Étienne est un des spécialistes mondiaux de la vitrification des déchets. Mais comme c'est un grand pédagogue, avec cette notion de musée, vous l'aurez compris, eh bien, il explique aussi beaucoup en France ces questions de radioactivité. Et comme c'est un chrétien, ben, il mélange science et foi. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir pour l'écouter. Avant de lui donner la parole, je voudrais vous demander d'éteindre vos GSM. parce que sans doute que vous allez être appelé, comme tout le monde est toujours appelé à n'importe quel moment. Faisons un effort pour éteindre nos GSM. Étienne va nous faire une présentation. Au terme de la présentation, il y aura des questions-réponses. Et puis, ça durera le temps que ça durera et nous prendrons un verre ensemble à la fin. Voilà, Étienne, c'est à toi.
Merci Samuel. Je vais me mettre là pour être pas trop loin de mon micro, voilà. Vous m'entendez, c'est bon ? Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux de pouvoir être parmi vous et partager mon cœur, qui est à la fois passionné de la science, de la découverte, et passionné de la foi. Vous allez, j'espère, vous en rendre compte tout au long de cet exposé. Alors, quelques mots pour me présenter. D'abord, je suis marié, ma chère femme est là, Noël, voilà. Et nous avons 5 enfants, 5 garçons et 6 petits-enfants. Et depuis plus de 37 ans, je suis chercheur et je suis aussi chrétien depuis plus que ça. Et donc, depuis 37 ans, je vis ces deux choses. Et souvent, les gens me posent la question, mais comment est-ce compatible ? Est-ce que tu ne deviens pas schizophrène ? Est-ce que tu dois oublier ce que la Bible dit pendant 5 jours par semaine et puis oublier ce que la science dit le dimanche pour lire la Bible ? Alors, je vous rassure, j'espère que l'exposé tout au long vous rassurera aussi. Mais j'ai jamais eu de problème d'aucune sorte de conscience. Il y a toujours eu une parfaite harmonie qui ne m'a jamais posé aucun problème. Et on va un petit peu en parler donc tout au long de ces exposés. Alors j'ai un travail qui me passionne, parce que moi j'aime bien... Ah oui, j'ai fait des études de physique, mais après dans ma carrière j'ai fait peut-être des fois plus de chimie que de physique. J'ai fait plus des fois de la géologie. J'ai touché un peu à tout, parce qu'avec les déchets nucléaires, il faut toucher beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi l'aspect social, l'acceptation du public. Je suis aussi professeur, donc j'aime aussi la pédagogie. Donc, j'aime bien ce métier où je touche à beaucoup d'aspects. Et quelque part, je suis un peu spécialiste de rien, puisque quand on touche un peu à tout, on peut... Mais j'ai fait travailler les meilleurs spécialistes parce qu'on avait des ressources. Et je suis un peu comme un architecte qui a assemblé des morceaux que me donnaient les géologues, donnaient les chimistes, donnaient les physiciens. Donc, c'est un travail que je trouve passionnant. Voilà. Alors... Ma spécialité, je vous en parlerai pas ce soir, je suis pas venu pour vous parler de la radioactivité. Je fais beaucoup de conférences sur Fukushima, sur Tchernobyl, les impacts sur la santé, ça c'est tout à fait mon domaine. Je fais des conférences sur les réacteurs et le cycle du combustible, mais ce soir on va parler de d'autres choses. Mais je voulais être honnête en vous disant, ma spécialité c'est la vitrification des déchets nucléaires. Donc sur les déchets nucléaires, je dirais que là je me sens vraiment très armé pour... prendre n'importe qui en face et contester s'il faut pied à pied. Il y a d'autres domaines dont je vais parler, je voulais seulement dire, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas généticien, je ne suis pas cosmologiste, c'est pas parce qu'au CEA tout ça est étudié que j'ai toutes ces compétences. Mais j'ai la chance, par mon métier de directeur de recherche, de côtoyer d'autres directeurs de recherche qui sont biologistes. Donc j'ai une source d'information relativement accessible par mes collègues. Mais ça ne fait pas de moi un spécialiste. Donc, je voudrais rester modeste pour, quand je parlerai de certains sujets, dire que, quelque part, c'est une analyse personnelle. Bien sûr, ce que je veux aussi dire, c'est que je m'exprime ce soir à titre privé. J'engage pas le commissariat à l'énergie atomique. Je vais vous parler avec mon cœur. Alors, Samuel a déjà parlé du visiatome. Donc si vous tapez sur Google Visiatome, vous pourrez faire une visite virtuelle, vous pourrez apprendre plein de choses sur ce que c'est que la fission, la fusion, etc. Et vous découvrirez que vous êtes vous-même radioactif. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir.
Je vais prendre la télécommande.
Oui. Donc, Elle n'est pas allumée. D'accord. Ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, je vais le faire, là, c'est pas grave. Donc, la première question qu'on me pose souvent, est-ce que la foi peut empêcher la science ? Et...
Ça va.
C'est bon ? C'est bon ?
Oui, c'est bon.
Et souvent, on me dit, l'exemple typique où la foi empêche la science, vous voyez, Galilée condamné par l'Église. Alors, c'est vraiment pas un cas où la foi a empêché la science, parce que du côté foi, je pense que Galilée en avait plus que ses détracteurs. Donc, c'est pas un problème de combat de foi, c'est un problème de religion, je dirais que la religiosité et le légalisme a toujours été un danger qui a guetté tout le monde qui est une recherche de Dieu. Donc, oui, certainement, le légalisme, certains esprits religieux peuvent être une entrave. Mais la vraie foi, la Bible, n'est pas du tout une entrave. Alors, au contraire, je dirais même, si on regarde un peu l'histoire de l'Église, l'histoire tout court des sciences, Eh bien, on voit que ceux qu'on formait les sciences, ceux dont on a les noms tous les jours dans nos cahiers parce qu'ils ont donné des unités comme Ampère, Kelvin, etc., tous ces gens-là, c'est les hommes de foi. Parce que jusqu'à il y a encore à peu près 2 siècles, on ne séparait pas la science de la philosophie, et tous ces gens-là étaient des gens comme Ampère, comme Pasteur, comme Bragg, Faraday, qui avaient une profonde foi et dont on trouve des écrits remarquables qui manifestent leur foi. C'est seulement avec le siècle des Lumières, depuis à peu près 2 siècles, qu'on a vu des gens qui se sont démarqués volontairement et qui ont combattu la foi. Et donc c'est une entrée philosophique qui s'est mariée avec les sciences pour dire on va utiliser la science dans un but philosophique de se débarrasser de Dieu. Et on peut le comprendre avec certains excès qu'on a connus de la religion, que certains étaient tentés de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, mais c'est pas du domaine que la foi est une entrave, bien au contraire. Alors, certains m'ont expliqué, et l'expliquent mieux que moi, pourquoi la foi a aidé au contraire au développement de la science. Je ne suis pas un expert là-dessus, mais je pense que le fait de croire en un Dieu intelligent, qui crée un monde intelligible et qui donne à l'homme son intelligence, te pousse à l'explorer, te pousse à essayer de le comprendre. Et que d'autres cultures n'ont pas amené à autant de cette envie de connaître et de découvrir. Alors est-ce que la foi s'oppose aux mesures et aux observations et que le chrétien doit renoncer à sa foi pour croire la Bible ? Certainement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas si on sait faire la part des faits scientifiques et des interprétations humaines. Parce que les faits sont une chose, les interprétations sont une autre. En fait, la science en tant que telle, elle est neutre. Un atome, il n'a pas d'avis. Il est ni pour ni contre Dieu, c'est un atome. Mais la science est faite par des scientifiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes comme vous et moi. Et la science n'est pas neutre parce qu'elle est faite par des scientifiques qui ont chacun leur foi, leur métaphysique, leur opposé à la foi, leurs convictions diverses, et qui vont souvent interpréter les données à l'aune de leurs croyances, et je ne m'en mets pas d'ailleurs à l'écart. Moi-même, dans certains cas, je pense que la manière dont je vais imaginer d'interpréter ces données vont être sous-tendues par toute une sorte de choses qui correspondent à mon être. Donc il y a quelque chose de normal dans la science. Ce qui est pas normal, c'est quand on est malhonnête et qu'on ne le dit pas. Et qu'on dit « la science a démontré que », sans donner les hypothèses de départ. Et moi, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est l'intégrité de dire « voilà, sur la base de telle hypothèse, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut dire ». Alors, c'est un exemple de scientifique, par exemple Richard Dawkins, qui fait rentrer ses idées philosophiques dans sa science et puis qui essaye de tordre et de démontrer que Dieu n'existe pas. Mais ça, c'est pas de la science pour moi. Pas plus d'ailleurs que dans l'autre sens. Je ne chercherai pas à vous démontrer par la science que Dieu existe. Parce que je ne crois pas que la science puisse vous démontrer. La démonstration que j'espère vous faire que Dieu existe, elle est beaucoup plus quelque chose qui sort de mon cœur. Mais c'est pas quelque chose que je vais avoir par un raisonnement logique que je vais vous démontrer. Alors certainement, la foi, si elle est mal placée, elle peut amener dans une impasse. Le chrétien n'est pas à l'abri de l'orgueil, des préjugés. Et s'il veut être intègre dans sa recherche, comme dans sa foi, il doit se garder du légalisme. On a vu l'histoire de Galilée, de certains légalistes qui l'ont cassé. Être humble et reconnaître que sur le plan scientifique, comme sur le plan spirituel, ce qu'on ne sait pas est beaucoup plus grand que ce qu'on sait. Alors ça, c'était pour moi une grande découverte, parce que au début, j'ai travaillé sur les déchets radioactifs, et j'ai fait faire une thèse dans mon laboratoire. Et puis, au tout début, même quand la thèse était à tous ses débuts, on trempait un morceau de verre dans l'eau, on trouvait son taux de lixiviation, comment il se dissout, et on faisait une mesure de un mois, mettons, et on allait extrapoler ça sur 1000 ans, avec une simple règle de 3. Et là, tout le monde nous croyait sans problème. Oui, ça se dissout d'un millimètre, tous les X, etc. Et là, tout le monde nous croyait. J'ai jamais eu d'opposition à mes résultats tant que j'étais simpliste. Puis, ça me satisfaisait pas. Je me suis dit, qu'est-ce que j'en sais? J'ai fait une mesure 30 jours. Comment ça va être dans 100 ans, 1000 ans? Donc, moi, tant que scientifique, je n'étais pas satisfait. Donc, j'ai engagé un certain nombre de thésards. Et après une thèse, deux thèses, trois thèses, 10 thèses, 20 thèses sur le sujet, la connaissance sur l'altération des verres, les effets du rayonnement, les effets des micro-organismes, était largement étendue. Donc la connaissance, c'est comme une boule. Elle grossit, elle grossit, elle grossit. Mais quand la boule augmente, la surface avec l'inconnu, elle varie avec le carré du rayon. Elle varie plus vite. Et donc, tout ce qu'on sait qu'on ne connaît pas maintenant sur le sujet est bien plus important qu'avant que je commence mes recherches. Et du coup, les journalistes ont une foule d'entrées pour dire « Ils n'en savent rien, ça va nous péter à la figure, c'est dangereux. » Parce que par mes 25 thèses, je leur ai exposé tout ce qu'on ne savait pas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les décisions qu'on va prendre en tant que scientifique sont beaucoup plus solides que celles qu'on aurait prises il y a 25 ans sur la base d'une règle de 3. Et le travail d'ingénieur sera jamais de dire « Attendons de tout savoir pour décider, parce que sinon, on ne fera jamais rien. » Mais c'est de dire, avec ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, quelle est la situation raisonnable. Comment on peut bien gérer les choses. Ça, c'est. Et ce que j'aime dans mon travail, c'est que je suis à la fois chercheur, c'est-à-dire je fais grandir la connaissance, mais je suis aussi ingénieur, je fais de la recherche appliquée, où je dois après gérer cette connaissance pour dire qu'est-ce qu'on en fait. Avec ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, comment on gère l'inconnu. Vous ne pouvez pas être sûr, vous n'aurez pas d'accident. Comment vous le gérez? Peut-être que vous avez un airbag. Peut-être... Voilà. Donc, vous ne pouvez pas être sûr complètement de tout. Si vous voulez être sûr de tout, vous ne prendrez jamais une voiture, vous ne prendrez jamais rien. Mais vous pouvez prendre un certain nombre d'éléments pour gérer cette incertitude, de manière raisonnable. Et d'un autre côté, est-ce que la foi peut aider le scientifique? Je le crois aussi. Ce qu'il y a en commun entre ma vie, parce que je suis aussi pasteur d'une petite église de maison, ma vie de chrétien engagé et ma vie de chercheur, c'est que dans les deux cas, je suis un chercheur de vérité. On cherche la vérité. On a ce désir de vérité. Et le croyant est ouvert au fait qu'il y a des dimensions invisibles. Celui qui est enfermé dans le matérialisme a beaucoup de mal au départ à penser qu'il y a d'autres choses que ce qu'il mesure qui peut exister. Le croyant est largement ouvert à ça. Et le croyant va aimer la science, se régaler comme je le fais dans mon métier, mais en résistant à la tentation scientiste qui est de faire de la science une idole qui va t'aveugler. Et je pense que voilà, dans la vie, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Et les décisions que j'ai prises dans la vie ne sont pas que basées sur la science. Alors maintenant, je vais aborder le sujet qui est souvent est celui qui fâche, mais je pense qu'il est important d'aborder création et évolution. Et puis après, j'en aborderai d'autres. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit qu'au commencement de notre vie, notre propre existence résulte des actes d'un Dieu créateur. Dans la Genèse, nous pouvons lire « La création des êtres vivants, semences, arbres, animaux, a été faite chacun selon son espèce. » Ça, on ne peut pas nier que c'est dans la Bible. Puis, une fois que la création est avancée, il n'y a pas encore l'homme, la création spéciale de l'homme. Création d'un homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Homme qui est appelé à dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles. Avec une mission, quelque part, d'explorer pour être le gérant et le régent de ce monde qui a été créé. De l'autre côté, la théorie de l'évolution prétend que les espèces vivantes, toute espèce vivante, l'espèce humaine comprise, procèdent toutes d'une cellule primitive, fruit du hasard des collisions atomiques, qui se serait multipliée et progressivement transformée puis divisée, se perfectionnant d'une étape à l'autre. Et c'est cette théorie qui est enseignée dans la plupart de nos écoles, qui est reprise par nos journalistes et qui, tournant en boucle, est devenue une vérité universelle parce qu'elle est reprise et reprise et reprise. En fait, peu de scientifiques ont réellement creusé les fondements de cette théorie. Moi-même, j'étais scientifique, mais je l'ai avalé comme ça, sans en creuser les fondements. Parce que, voilà, c'est tellement répété à l'école comme étant un fait que vous l'avez gobé, et moi aussi, comme beaucoup. Et en fait, beaucoup de scientifiques, hors de leur domaine, ils font comme les autres. Ils fondent leur idée sur ce qu'ils lisent dans les médias, ce qui est répété, tourne en boucle. Et beaucoup ont cru dur comme fer à cette théorie et l'enseignent comme un fait, alors qu'à mon sens, il s'agit au mieux d'une théorie, au plus vrai d'une croyance. Alors, théorie ou croyance, je vais être un peu dur, mais si on veut définir ce que c'est qu'une théorie dans les sciences, il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper's qui a écrit plusieurs livres sur qu'est-ce que c'est une théorie scientifique. Et pour qu'un label de théorie puisse être donné, il faut un certain nombre de critères. Notamment, il faut que ce soit vérifiable ou falsifiable. C'est-à-dire qu'on puisse mettre à défaut. Une théorie qui ne pourra jamais être mise à défaut doit être plutôt présentée comme une hypothèse ou une croyance, mais ne peut pas être une théorie puisqu'on ne peut pas la mettre à défaut d'aucune manière. Par exemple, dans la théorie de l'évolution, Vous avez une espèce qui donne une autre, et vous dites, ça y est, c'est passé d'une à l'autre, et vous avez une petite qui a donné une grosse. Et oui, c'est normal. Le plus gros était le plus costaud, et c'est pour ça que c'est lui qui a subsisté, et il a bouffé le petit. Ou le petit n'a pas résisté. Pof, pas de chance, les faits montrent que c'est pas ça, et finalement, c'est le petit qui a résisté. Ah oui, mais c'est normal. Le petit était plus petit, il se cachait mieux des prédateurs, donc c'est pour ça qu'il a résisté. Et vous allez toujours retomber sur vos pattes, mais c'est pas vérifiable. Je peux pas vérifier ni le gros le petit, ni que le petit se cachait mieux des prédateurs. Donc, on va toujours trouver ce qu'il faut pour retomber. Donc, pour moi, en termes de la théorie de Karl Popper sur ce que c'est qu'une théorie, je peux même pas l'appeler une théorie, mais je vais l'appeler une théorie quand même par courtoisie pour ceux qui le pensent. Alors, si c'est une théorie, il faut dire sur quelles hypothèses elle se base. Alors, d'abord, elle se base sur l'hypothèse que tout n'est matériel et que n'est de science que ce qui est mesurable et matériel. Et derrière cette hypothèse, il y a deux sous-hypothèses. La première hypothèse, qui n'a jamais été vérifiée, c'est la génération spontanée de la vie à partir d'atomes qui seraient assemblés dans une soupe moléculaire ad hoc qui pourrait générer la vie. Donc ça, c'est une hypothèse complètement gratuite et qui n'a jamais été vérifiée. Ça fait 200 ans qu'on essaye, au début de manière assez primaire et de manière plus sophistiquée aujourd'hui, de recréer des soupes dites originelles pour essayer de créer le vivant. Mais tout ce qu'on sait faire, c'est manipuler le vivant. C'est-à-dire qu'on prend du vivant existant, on le greffe, on le manipule, mais on ne sait pas générer le vivant à partir de la matière. Et ça fait 200 ans qu'on essaye. Donc, vous avez le droit de croire, mais vous devez dire, ce n'est pas un fait démontré, c'est ma croyance. Et là, je vous respecte. On est chacun dans la vérité, et je vous respecte. Le deuxième point, c'est la création de nouvelles espèces par des mutations aléatoires successives. Ça, c'est aussi une croyance qui n'a jamais été vérifiée dans les faits. Ça fait 200 ans, et plus particulièrement c'est la dernière 50 années, qu'on accélère les mutations par des irradiations notamment, ou par d'autres moyens, parce que les mutations, il y en a énormément, et rien que le fait que je respire et que je sois à 37 degrés crée que chaque cellule, chaque jour, fait des milliers de mutations. Donc, on peut essayer d'accélérer les choses pour voir plus vite les phénomènes évoluer. Quand on irradie, par exemple, des drosophiles, c'est des sortes de mouches, et pour essayer, parce que les mouches se reproduisent assez vite, on va avoir beaucoup de générations, donc on a une chance d'essayer de voir si on fait bouger, on peut créer des nouvelles espèces qui seraient créées, par exemple. Mais tout ce qu'on arrive à faire, c'est faire des mouches qui n'ont plus de pattes, qui perdent une aile, on arrive à faire des infirmes, et puis arriver à un certain niveau d'infirmité, eh bien, elles ne se reproduisent plus. Donc, elles ne peuvent plus, ça finit, la chaîne s'arrête, parce que lorsqu'il y a un certain nombre de dégâts, ça se répare. Plus de dégâts, on n'arrive plus à réparer, on est infirme. Et encore plus de dégâts, ça ne marche plus. D'ailleurs, les OGM ont fait des modifications qui vont tellement au-delà de la limite de l'espèce que c'est des hybrides qui ne se reproduisent plus parce qu'on est sorti de la limite de l'espèce. Alors, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas généticien, donc je ne veux pas vous parler beaucoup plus de ça. Mais je suis de plus venu là vous donner un témoignage qu'il existe de nombreux scientifiques et un nombre croissant aujourd'hui qui remettent en question la théorie de l'évolution. J'en ai cité quelques-uns là qui sont un petit peu anciens, mais le transparent suivant vous montrera beaucoup plus récent. Des tas de prix Nobel ont contesté, ont dit, mais la probabilité qu'un oiseau comme le pivert puisse coordonner ses mouvements, que ce soit par le hasard des mutations, c'est juste impossible. Après, il y en a qui ont fait des calculs de probabilité, le nombre de mutations qu'il aurait fallu pour atteindre cet état-là. Et on arrive à des chiffres que je vous montrerai tout à l'heure, tellement ahurissant au niveau des mathématiques qu'une probabilité comme ça, c'est zéro. Ensuite, on peut prendre d'autres domaines de la nature, pas seulement des gens qui font de la zoologie, mais des gens qui sont par exemple des paléontologues qui vont regarder les fossiles. Eh bien, Darwin avait dit, voilà, on a trouvé un ou deux fossiles, mais dans le futur, on va en trouver des milliers, ce qui est effectivement le cas, et là, on va retrouver que ma théorie, ça marche, parce qu'on va trouver toutes les étapes transitoires. En fait, on voit tous les fossiles arrivent essentiellement au Cambrien à une date donnée, tous en même temps, et puis vous retrouvez une moule qui a 10 millions d'années, elle a la même tête, elle est même qu'une moule d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas retrouvé. Donc, Darwin avait dit, si on ne les retrouve pas, ma théorie devrait être mise à défaut. On n'a pas retrouvé, mais on l'a quand même conservé, parce que on va voir que c'est un dogme puissant au filtre duquel, aujourd'hui, on veut pas lâcher pour des raisons qui ne sont pas scientifiques. Par exemple, un professeur à l'université de Massachusetts, professeur de biologie moléculaire, a mis au défi tous ses collègues à chacun de ses congrès de citer une seule espèce, voire même un seul organe, qui a été formé par une succession de mutations. Ça fait des années qu'elle les met au défi, son défi tient toujours. On n'a jamais pu mettre en évidence une seule espèce qui soit le résultat de mutations. Donc, là encore, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais c'est une hypothèse sur laquelle Voilà, c'est une croyance, une hypothèse, mais quand on dit « la science a démontré que c'est comme ça », là je trouve qu'il y a abus de science.
De la science.
Et d'ailleurs, certains philosophes ou certains physiciens, comme ce Lipson anglais, qui lui était un évolutionniste pur craint, et reconnaît après coup que, en fait, pour moi, c'était devenu une religion. Presque tous les savants l'ont accepté et furent prêts à tordre leurs observations, et combien de fois je l'ai vu, pour que leurs observations fitent. Moi, mes propres enfants, ils allaient à l'école et je leur dis, voilà, t'as des points ici, puis t'as un exercice, il faut passer une courbe comme ça, voilà. En tant que scientifique, honnêtement, que tu la passes comme ça ou comme ça, la statistique avec des points complètement aléatoires, t'as autant de chances de la passer là que là. Mais si tu veux avoir une bonne note, il faut la passer là. Voilà ce que je leur disais. Mais statistiquement, en tant que physicien, je leur disais une aberration. Parce que moi, je devais faire des moindres carrés, enfin, pour ceux qui sont scientifiques, ça veut dire, je devais faire des choses scientifiques, je pouvais pas passer où je voulais ma courbe. Il n'y avait aucune raison de la faire passer là. Mais c'est pour des raisons philosophiques qu'on la fait passer là et pas ailleurs. Et cet homme reconnaît, je pense, que la seule explication acceptable est la création. Je sais que cette idée est taboue parmi les physiciens, comme elle l'était pour moi jusque-là, mais on ne doit pas rejeter une théorie que nous n'aimons pas si l'évidence expérimentale est dans sa faveur. Et pourquoi j'ai retenu cette phrase ? C'est parce que plein de scientifiques qui aujourd'hui sont en train de remettre en question la théorie de l'évolution ne le font pas, ne sont pas des chrétiens. Ne le font pas Bible à la main en disant « Genèse a écrit que, etc. Donc taisez-vous tous ». Ils le font parce que les faits scientifiques infirment et qui sont des scientifiques honnêtes de plus en plus. Donc il y a un grand nombre de scientifiques qui remettent en cause l'évolution sur des bases scientifiques. En fait, c'est une théorie qui est sans cesse remise en question, mais qui rebondit sans cesse parce que c'est un dogme. Et il est étant impossible de sortir du dogme, donc moi, par exemple, quand j'étais petit, on m'a enseigné que l'homme descendait du singe. Depuis, la science a démontré que le singe vient après l'homme. Donc, il y a un journal qui s'appelle Philosophie qui a écrit, à cause de ces découvertes qui avaient été publiées récemment, le singe descend de l'homme. Alors, en fait, on va faire des arbres et on va les défaire en permanence, parce que dès qu'on fait un arbre, une dizaine d'années après, la science démontre que c'est faux. Bon, pas de problème. Je mets le singe ici, je le mets l'homme par rapport à là, pof, et je me refais un arbre et je retombe sur mes pattes. Mais, pour moi, les arbres qui font passer d'une espèce à l'autre sont basés sur des spéculations. Alors, vous avez le droit de spéculer. Moi, toute ma vie, j'ai fait des théories. Donc, je ne reprocherai pas aux gens de faire des théories. J'en ai fait toute ma vie. Mais, l'honnêteté, c'est de dire, voilà, je fais l'hypothèse de ça, ça me donne ça. Et si vous n'acceptez pas mon hypothèse, vous avez le droit de remettre en question ma théorie, parce que je vous donne mes sources, je vous donne mes bases. Et je vous dis sur quoi je pars. Et un des grands évolutionnistes français, qui est un paléontologue, qui est Yves Coppens, qui a écrit pas mal de bouquins, j'ai pris dans ses ouvrages certaines phrases, parce que certaines phrases, je dirais, se reconnaît un peu quand même, dit la vérité. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans un de ses ouvrages ? La paléontologie, de par sa nature fragmentaire de son information, a en plus l'extraordinaire devoir d'imaginer. La part qu'elle emprunte à l'hypothèse est immense. C'est peut-être d'ailleurs cette importance de l'imaginaire qui fait qu'elle fascine. Et effectivement, les arbres qu'on a appris à l'école, c'est essentiellement du domaine de l'imaginaire. C'est-à-dire, voilà, ces gens-là font des hypothèses sur ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, mais c'est pas des faits scientifiques, c'est du domaine de l'imaginaire. Alors les scientifiques qui rejettent complètement l'évolution sont une minorité, particulièrement en Europe, aux États-Unis un peu moins, mais même aux États-Unis ils sont une minorité, mais une minorité croissante. Et il est intéressant donc de noter que ceux qui sont cette minorité, eh bien, sont des gens qui donc sont pour une bonne partie pas chrétiens, et qu'on appelle aujourd'hui la communauté de l'intelligent design, c'est-à-dire des gens qui disent les faits scientifiques nous montrent que ça ne peut pas être des mutations aléatoires qui crée tout ce qu'on observe, et que derrière, il y a une intelligence supérieure. Alors après, tu peux en rien en faire, tu peux l'appeler être suprême, tu peux faire ce que tu veux, tu peux rester athée aussi, et dire, ouais, cette intelligence supérieure, c'est voilà, on ne sait pas où elle est, mais ça remet en cause l'évolution par des mutations et du hasard. Alors si vous tapez « Descent from Darwinism », qui veut dire « dissident du darwinisme » en français, sur Google, vous allez tomber sur une liste. Et alors les gens me disent souvent, ouais, mais toi, tu dois être influencé par des fondamentalistes américains. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est un fondamentaliste américain, mais bon, c'est l'insulte en général qu'on me met quand je ne dis que je ne crois pas à la théorie de l'évolution. Alors, comme j'ai peu été fréquenté les milieux chrétiens américains, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais quand je regarde les gens qui sont ça, c'est tout sauf des fondamentalistes américains. Hein. Il y en a un qui est effectivement l'Académie nationale de sciences américaine, un autre qui est à l'Académie des sciences de Pologne, un autre à l'Académie des sciences de Russie, un autre à l'Académie des sciences de Russie de nouveau, un biologiste à l'Académie des sciences tchèque. Donc, tous ces gens, et la liste, vous pouvez taper sur Internet, vous l'aurez, vous en avez des milliers de noms, sont loin d'être des gens qu'on peut taxer de fondamentalistes ou de etc. C'est des gens qui, pour des raisons scientifiques, sont dans des académies des sciences, ou à un haut niveau de responsabilité, remettre en question le darwinisme. Et ils disent pas on sait comment ça marche. Ils disent seulement l'évidence scientifique nous pousse à remettre en question cette théorie qui tient pas. C'est tout ce qu'ils disent. En fait, les outils extraordinaires de la science moderne nous sont de plus en plus en train de mettre à mal le mythe du hasard. Du temps de Darwin, la cellule, on pensait que c'était une petite poche avec un peu d'eau et 3-4 atomes qui se baladaient là-dedans, qui se battaient en duel. Donc, penser que ça pouvait se faire par hasard, pourquoi pas imaginer ça. Mais depuis, la biologie cellulaire a énormément progressé et on a fait des études sur la cellule énormément et on s'est rendu compte qu'une simple cellule unique était à elle seule un organisme extrêmement compliqué avec des dizaines et dizaines de fonctions, des fonctions de stockage d'énergie, des fonctions de fabrication d'énergie, des fonctions douanières qui disent je permets à cette molécule de passer et pas celle-là, je lui permets à ce moment-là, mais à ce moment-là il ne pourra pas passer. C'est extrêmement compliqué et si une seule de ces fonctions ne fonctionne pas, la cellule meurt. Donc ça coupe l'herbe sous les pieds à toute idée que ça peut se faire par aggradation, le contraire de la dégradation. C'est-à-dire, on met trois atomes, on met deux fonctions, puis 1000 ans plus tard, on en met trois, puis 1000 ans plus tard, on en met quatre, parce que s'il en manque une, la cellule meurt. Ça ne peut pas marcher sans qu'il y ait le tout. Donc, où c'est créé globalement? Alors après, on peut calculer la probabilité que ça se crée globalement comme ça. Et là, on arrive à des chiffres qu'on ne peut même plus écrire. Les probabilités sont avec des nombres tellement infimes qu'on n'arrive même pas à les écrire, on le verra tout à l'heure. Alors, il y a un DVD que je pourrais vous montrer pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle « Déchiffrer les mystères de la vie », que je trouve passionnant, que je vous recommande si vous voulez connaître la complexité irréductible de la vie, c'est-à-dire comment les cellules et l'observation des cellules par les biologistes a amené à remettre en question la théorie de l'évolution. Ce DVD, il a été fait par des biologistes australiens et américains, qui étaient les ténors de l'évolution, qui avaient écrit des bouquins sur l'évolution, qui se vendaient, qui faisaient référence. Donc c'était pas monsieur n'importe qui. Et ces gens-là se sont réunis en concile entre eux en disant « Il y a quelque chose qui cloche avec les données, il faut qu'on travaille entre nous. » Et c'est eux qui ont commencé à créer ce qu'on appelle la communauté de l'intelligent design. Parce qu'ils ont dit « La complexité irréductible de la vie nous montre que le développement ne peut pas se faire par des mutations aléatoires et la sélection naturelle. Ça ne peut pas marcher. Bien sûr, la sélection naturelle existe, bien sûr, les mutations existent, mais c'est pas ça le moteur de notre évolution. Donc, je vous encourage à ceux qui veulent creuser. C'est à un niveau qui est d'ailleurs super, enfin, qui est accessible à monsieur tout le monde, mais qui, pour les biologistes, et c'est fait par des biologistes vraiment compétents. Moi, je suis pas en biologie compétent vraiment, donc je vais être très modeste. Mais ce DVD fait par un panel de biologistes, à la fois, il est très bien fait, et il y a toute une partie accessible à tout le monde. Il y a une partie pour les plus spécialistes qui va détailler un petit peu plus. Et puis surtout, pour moi, il est extrêmement crédible dans la mesure où c'est les meilleurs ténors de l'évolution qui ont eu le courage d'accepter que leur bouquin qui se vendait bien allait arrêter de se vendre pour dire « on s'est planté ». Et ça, il faut du courage, je pense, en science, pour, quand on a du succès, dire « on s'est planté ». Donc, premier point, qui remet en cause le hasard, la complexité irréductible de la vie découverte par les biologistes. Le deuxième point, alors pour donner un exemple, pour finir ce point-là, il y en a un que j'ai mis sur mon transparent, je vais vous le détailler. Alors, au Visiatome, c'est super parce que je fais venir tous les mois des conférenciers nouveaux sur tous les sujets que je veux. Et je fais de la vulgarisation sur tous ces sujets. Et j'ai fait venir des gens passionnants, notamment, il y avait André Ménès, qui était du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui était un très éminent biologiste, maintenant il est décédé. Et il nous a fait une super conférence sur les protéines de l'œil. Et rien qu'une des protéines de l'œil, elle est faite avec différents acides aminés, et si on voulait la refabriquer par hasard, on prendrait les différents acides, A, B, C, etc., et on essayerait de les greffer dans un sens, dans l'autre, et on ferait des tas de combinaisons. Le nombre de probabilités, c'est 10 à la puissance 130. Pour ceux qui ne sont pas scientifiques, ce nombre ne veut rien dire, mais c'est des milliards de milliards de milliards. Il y a 1 et 130 zéros derrière. Vous pouvez dire milliards, milliards, milliards de. Et c'est un nombre absolument gigantesque, dit ça, la puissance 120. Donc, et puis même si vous supposez, ce qui est strictement impossible, qu'avec des milliards de milliards de milliards, autant d'années que vous voulez, pof, par chance, vous arriviez à faire une protéine d'un œil, ce qui est totalement impossible, ça ne marcherait toujours pas. Parce que une protéine, non seulement il faut que les atomes soient arrangés dans le bon ordre pour qu'elle fasse la fonction œil, mais quand vous la lâchez, la protéine, c'est un peu comme un paquet de nouilles bien cuites que vous mettez sur la table. Ça se met comme ça, une forme un peu bizarre. Eh bien, la forme encore dans laquelle se met, va, si elle n'a pas la bonne forme, la fonction ne va pas s'exercer. Donc le fait d'avoir mis avec probabilité une fois tous les 10 puissance 100 ans ne suffirait pas encore à la faire fonctionner, parce qu'encore faudrait-il qu'elle ait la bonne forme. Et aujourd'hui, les biologistes travaillent beaucoup pour essayer de comprendre ces formes qui ne sont pas des formes géométriques faciles, carrées, en cristallographie, avec les roches, c'est facile. C'est avec les rayons X, on voit si c'est carré, cubique, etc. Mais là, c'est des formes extrêmement molles, je dirais, qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à définir et comprendre. Ensuite, on va passer à un autre domaine, les conditions de formation de la Terre et du Big Bang. Et on va voir l'unicité de la Terre au milieu des planètes. Alors on va faire un peu de cosmologie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce gros mot, la cosmologie, donc c'est l'étude du cosmos, c'est l'étude de comment la Terre est venue à exister, comment les planètes se sont formées, etc. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste, mais voilà ce que j'ai tiré de certains de mes collègues. Ou de certains documents publiés. Si on regarde les conditions du Big Bang, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le modèle standard. C'est un modèle de physique qui essaye de décrire, au mieux des connaissances du moment, comment la Terre s'est formée, enfin le monde s'est formé, le cosmos s'est formé avec le Big Bang, comment les planètes sont formées, et d'unifier en gros les forces de la physique. En essayant de comprendre avec ces quatre forces. Donc il y a quatre grandes forces, hein, il y en a connaissez tous une, la gravité, vous avez du poids, vous êtes assis au ciel. Vous connaissez à peu près les forces électromagnétiques parce que vous utilisez les ondes d'une manière ou d'une autre, ou un aimant, donc vous connaissez ça. Celle que vous connaissez moins, c'est la force nucléaire forte et faible, parce que là, c'est celle qui tient la cohésion des atomes qui vous constituent, et ça, vous ne vous en rendez pas compte. Mais il y a en gros ces quatre forces. Et elles sont couplées entre elles d'une certaine manière. Eh bien, ces spécialistes en cosmologie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si, par exemple, les constantes de couplage de la force électromagnétique avec la force forte, donc c'est une de ces forces nucléaires, différaient à la 40e décimale, hein, c'est pas à la première décimale, à la 40e décimale, les atomes stables n'auraient jamais existé. Vous changez à la 40e décimale, pas d'atomes stables dans l'univers. Si la constante cosmologique variait à la 120e décimale, il n'y aurait pas eu de planète, pas eu de monde. Pourquoi ? Si elle était un tout petit peu plus petite, après le Big Bang, il y aurait eu le Big Collapse, serait revenu sur elle-même, un peu plus grand, tout serait parti et n'aurait pas pu se former entre eux. Une valeur à la 120e décimale pour que ça marche. La probabilité pour que ces conditions absolument étonnantes, uniques, qui est appelée par les anglo-saxons le fine-tuning, comme vous réglez la radio, là c'est cet ajustement pile poil pour que les planètes, la Terre puissent se faire. D'où il vient? Alors il y a un mathématicien anglais qui s'appelle Penrose, Roger Penrose, qui est aussi un cosmologiste, qui a calculé la probabilité que ça soit fait par hasard. Il est arrivé à un chiffre, une chance tous les 10 à la puissance 10 à la puissance 123. C'est-à-dire ce nombre est tellement grand qu'on ne peut pas l'écrire. Vous voyez, j'ai obligé de l'écrire avec des lettres. Si on voulait l'écrire, il faudrait mettre un 1, et 10 à la puissance 123 zéros. Même avec les ordinateurs les plus puissants, les plus miniaturisés, si j'arrivais à mettre un zéro sur chaque atome de l'univers, j'aurais pas assez d'atomes dans l'univers pour écrire ce nombre. Parce qu'on estime que dans l'ensemble de l'univers, il y a 10 à la puissance 80 atomes. Donc, là, qu'est-ce qu'il en conclut? Eh bien, c'est que la probabilité que le Big Bang soit venu par hasard, elle est nulle de chez nulle de chez nulle. C'est impossible. Ce nombre, la probabilité est totalement nulle. Et Penrose en conclut, ce nombre nous dit combien précis est le Créateur dans la manière dont il nous a créés, avec une précision à la 120e décimale. Ensuite, on va regarder tout ce cosmos qui s'est formé par hasard, tout à fait par hasard. Et on va regarder où est la Terre. Voilà. Le système solaire, il est là, dans notre galaxie. Si notre système solaire était placé là, la vie ne serait pas possible à cause de l'intensité du rayonnement. Mais il est juste à l'endroit qui va bien pour que, moyennant une atmosphère qui est ce qu'elle est, eh bien, ce qui arrive sur la Terre, c'est 2,4 millisieverts. C'est une dose qui, non seulement n'est pas nuisible pour le vivant, mais même à ma conviction, est bénéfique. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne vous ferai pas une conférence sur l'hormésie ce soir. Donc on en... voilà. Mais qui est juste optimale, en tout cas qui n'empêche en rien la vie de se développer. Bon, par hasard, elle est là. Mais regardons la masse de la Terre. Elle est ce qu'elle est, la masse de la Terre. Supposons qu'elle ait été... Allez, plus grosse. Plus grosse, qu'est-ce qui serait passé? Elle aurait une forte gravité. Hein, donc, l'accélération de la pesanteur serait très forte, on pèserait très lourd. Qu'est-ce qui serait passé? Tous les gaz seraient restés. Et l'atmosphère ambiante du cosmos, c'est de l'hydrogène. Donc, on aurait une atmosphère qui serait essentiellement d'hydrogène. La vie n'est pas possible. Supposons qu'elle était plus petite maintenant, comme la Lune. Tous les gaz, au contraire, la gravité étant elle, seraient échappés. Il n'y aurait plus d'oxygène, plus d'azote. Mais il y a juste le poids qu'il faut pour que les gaz se soient échappés, mais qu'il n'y ait pas que de l'oxygène qui reste, parce que la vie ne serait pas possible, s'il n'y avait que de l'oxygène, ce serait trop oxydant, mais juste ce qu'il faut. Vous savez, une bouteille d'oxygène, c'est dangereux, quand c'est 100%. Mais diluer 20% d'oxygène dans 80% d'azote, c'est l'air qui nous entoure, c'est pas dangereux. Je peux taper dans des mains, ça ne va pas exploser. Je peux allumer mon ordinateur, faire une étincelle, il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Alors, on peut penser que c'est par hasard, que c'est tout à fait par hasard. Mais on peut en prendre un autre par hasard. Regardons la distance entre le Soleil et la Terre. Allez, on l'augmente ou on le raccourcit? On le raccourcit de 10%. La température augmente au-delà de 100 degrés si on raccourcit cette distance. L'eau est vapeur. La vie n'est pas possible. Alors on recule de 10%. Là, on recule, l'eau est à moins 50, elle est tout le temps glacée, la vie n'est pas possible. La Terre est juste à la bonne position, la bonne taille pour avoir la bonne atmosphère, la bonne position pour avoir une température moyenne de 15 degrés, qui est juste l'optimal pour la vie. La Lune, elle est là par hasard, cette espèce de petit satellite qui tourne, tout à fait par hasard. Mais, coup de chance, vous savez que la Terre, elle penche avec un angle de 23 degrés. Et sur les autres planètes, eh bien, tous les 1000 ans, ça se balade, l'angle, il change, etc. Et la Lune, elle stabilise cet angle. S'il n'y avait pas la Lune qui stabilisait cet angle, notre planète, tous les 1000 ans, elle aurait des glaciations plus fortes, donc la vie serait difficile, puis après des périodes chaudes, désertification. Et de stabiliser les saisons aide au développement de la vie. Et la Lune, j'ai lu ça de physicien, alors ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas du domaine, mais j'ai trouvé très intéressant. Elle stabilise cet angle, elle met une sorte de contrepoids, et pour que ce 23 degrés bouge beaucoup moins que d'autres planètes où ça bougerait. Alors, c'est pas du rapide même sur les autres. Mais même si c'était tous les 1000 ans, imaginez des périodes de glaciation, etc., pour le développement de l'humanité, ça serait vraiment un obstacle. Et comme ça, on pourrait prendre exemple, une centaine d'exemples. La Terre est juste spécialement à toutes les conditions pour que la vie humaine se développe. Par exemple, l'atmosphère. L'atmosphère va atténuer le rayonnement cosmique, juste ce qu'il faut, et elle va permettre l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quelque chose de bénéfique. Après, si on en a trop, bien sûr, ça pose un autre problème. Mais au départ, l'effet de serre participe à cette température de 15 degrés. Donc au départ, c'est quelque chose de bénéfique. Après, si on en rajoute excessivement, effectivement, ça va augmenter et on va sortir de cet optimum. En fait, la Terre, vous avez le droit de penser que c'est par hasard. Moi, j'ai pas assez de foi pour croire que tout ça n'est que du hasard. Et c'est plus facile, c'est scientifiquement beaucoup plus logique de penser qu'il y a un créateur derrière, qu'il y a un dessein intelligent. Quand on fait les calculs de probabilité que tous ces hasards se produisent, on arrive à des chiffres tellement ahurissamment petits qu'on sait que c'est pas possible. Mais en plus, la théorie de l'évolution conduit à un vrai problème philosophique grave. Elle nous fait un amalgame dans le mot vie. En grec, c'est plus riche. En vie, on a plusieurs mots qui disent vie. Mais en français, on n'a qu'un mot. On est un peu pauvre. Et alors, la théorie de l'évolution va jouer là-dessus. Et on te dit, mais finalement, la vie, c'est la vie. Et une bactérie, une souris, un éléphant ou un être humain, c'est toujours la vie. C'est toujours pareil. Ou même une plante. Donc, on ne fait aucune distinction. Puisqu'on dit, tout est parti d'une cellule qui est passée 2, puis 4, puis 10, puis etc. Donc, finalement, tout c'est du même tabac. Et ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous enseigne qu'il y a vie, vie et vie. Dieu nous dit qu'il a créé la vie biologique, une plante, ça naît, ça pousse, ça grandit, ça meurt. Nous, on a une vie biologique aussi, on a un corps avec des mêmes atomes que la plante, avec la matière organique qui est très similaire, on verra que les briques élémentaires sont très voisines. Mais on n'a pas que ça, on a une âme. Dieu nous a créé une âme vivante, mais mon chien aussi a une âme. Il est aussi une âme vivante. Anima, ça vient de âme, donc l'animal c'est animé, ça a une âme, ça a une volonté, une intelligence, des émotions, c'est ça l'âme. Mon chien, si je lui mets des saucisses pas trop loin, vous allez voir qu'il va montrer qu'il a de la volonté. Donc, un chien, c'est un corps biologique plus un corps psychique, une âme. Mais Dieu nous dit que l'homme, il a créé à son image et qu'en plus un esprit. Et donc, il y a une grande différence entre vie, vie et vie. Entre la vie d'une bactérie, la vie d'un animal ou la vie d'un homme. Mais la théorie de l'évolution a lissé tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des philosophies qui nous disent, ben, pour protéger la Terre, il faudrait que de 7 milliards, on en tue 6 milliards pour que finalement, les vers de terre se portent mieux. Parce que le vers de terre a la même valeur dans cette philosophie que l'homme. Mais moi, je sais que le bon sens reviendrait vite si vous échouiez sur une île déserte et puis que je pouvais quand même vous parler. Je dis, oh, mais non, c'est pas de souci, t'as quelques millions de bactéries qui sont là. Je serais pas franchement rassuré. Je dis, ouais, mais il y a aussi plein d'animaux sauvages. Mais si je dis, non, continue, il y a un petit village de pêcheurs là-bas, t'es pas une île déserte, il y aura une différence. Donc, vie et vie ne sont pas la même chose. La vie bactérienne, la vie... Moi, si on trouve un microbe sur Mars, ça ne va pas révolutionner ma philosophie. Ça n'a rien à voir avec la vie humaine. Il peut y avoir des microbes qui vivent dans des conditions sans oxygène, avec des tuyaux, ils se nourrissent de sulfure, qui peuvent se développer dans des conditions extrêmes. On a trouvé dans des eaux chaudes, très chaudes, etc. Donc, la vie humaine, c'est pas la vie bio seulement. C'est beaucoup plus que ça. Alors, souvent, on a essayé de ridiculiser ceux qui ne croient pas à la théorie de l'évolution en disant, c'est des archaïques qui disent, voilà, l'homme était toujours pareil, il n'y a rien qui change. Etc. Bien sûr que les chrétiens, on n'est pas aveugles et qu'on n'est pas, on ne joue pas à l'autruche. On croit que tout évolue, le monde évolue, et bien sûr qu'il évolue. Par contre, quel est le moteur de l'évolution ? Le monde a été créé, il y a eu un début, il a grandi, s'est développé, il a fait plein de choses, l'humanité aussi. Il va vers un but, Dieu a un dessein intelligent, et il va nous amener quelque part, il va vieillir, il y aura une fin. Donc comme un être humain, il naît, il grandit. Et bien sûr que mon bébé, 20 ans après, il n'est pas pareil, en tout cas j'espère, ça serait dramatique. Et bien sûr que ça évolue, le monde c'est pareil. Mais la cause n'est pas ces mutations aléatoires, purement des atomes qui par le fruit du hasard se collisionneraient. Et qui vont sans but ni raison, et qui font qu'on n'aurait pas plus de valeur qu'une bactérie. Non, la première cause de cette évolution, c'est le brassage génétique. On voit l'homme, d'un homme, Dieu a créé, puis une diversité, des grands, des noirs, des blancs, etc. Une diversité. Le brassage génétique est la première cause de l'évolution. Et puis, il y a la sélection naturelle qui existe, mais qui n'est pas un moteur de création, qui est un moteur de contrôle, c'est-à-dire que lorsque quelque chose sort trop et trop abîmé, on l'élimine. Et ça permet de maintenir l'information. Lorsque mes drosophiles étaient trop irradiés, ils ne se reproduisaient plus, et du coup, ça évitait que l'espèce se distorde. Donc, bien sûr que la sélection naturelle est très importante pour le maintien de l'espèce, pour qu'on n'aille pas trop loin. Les mutations vont donner une souplesse extraordinaire au sein d'une espèce pour gérer des états de stress extraordinaires. Mais lorsque ça va trop loin, la cellule se suicide. Les mutations, non seulement on ne les conteste pas, mais si on calcule bien aujourd'hui, il y en a même tellement qu'elles auraient dû tuer l'information de l'ADN. Et on ne comprend pas que toute l'information était conservée. Et aujourd'hui, les travaux modernes montrent que ce qui est extraordinaire, c'est la puissance de guérison de l'ADN. Toutes les minutes, mes cellules ont des milliers de mutations. Mais le taux de réparation de ces mutations, il est 10 à la puissance 18. Alors je m'excuse pour ceux qui ne sont pas scientifiques, mais c'est... Il y a un succès, il y a une faute, tous les milliards de milliards de réparations. Et encore, dans ce cas où il y a une faute, en général, la cellule se suicide, ce qu'on appelle l'apoptose, qui va éviter d'avoir une cellule précancéreuse potentielle. Donc, la machine humaine, elle est extraordinairement bien faite pour qu'à la fois les mutations fassent qu'on est en mouvement permanent qui permet une adaptabilité, mais en même temps, lorsque ce mouvement a conduit à sortir des limites qui étaient imparties pour que l'espèce aille bien, soit ça se guérit et on n'en sort pas, soit ça se suicide. Et si on perd une cellule, c'est pas grave, bien moins grave que d'en garder une abîmée qui pourrait être source de problèmes plus tard. Donc, la première cause de l'évolution, c'est le brassage génétique. Et là, il va quasiment à l'infini. Si vous prenez 46 chromosomes humains à la puissance 46, vous allez voir que le nombre de variétés d'espèces d'êtres humains est quasiment infini. Et puis, le deuxième moteur, c'est l'intelligence. C'est pas le hasard. Dieu nous a créé à son image avec de l'intelligence. Et si vous regardez, par exemple, un épi de maïs, vous prenez un épi de maïs du temps des Incas, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est maigrichon, il y a quelques grains, etc. Vous retournez aujourd'hui dans cette forêt, etc., vous allez quasiment retrouver le même. Un petit grain gringalé de maïs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez une belle pomme avec des épis bien jaunes qui pèsent un demi-kilo quasiment l'épi? C'est qu'il y a de l'intelligence, Dieu nous a créé à son image, et qu'on n'a pas croisé n'importe quelle espèce, n'importe comment. Moi, je discutais avec un agriculteur suisse, il avait des vaches, ils arrivaient à faire jusqu'à 50 litres de lait par vache et par jour. Mais ça faisait des générations que son père avant lui, son grand-père, avait sélectionné les animaux, avait croisé. S'ils avaient croisé de manière aléatoire la première vache avec le premier machin, avec le premier bidule, eh bien, ils n'auraient jamais eu une amélioration de l'espèce. Et qu'est-ce qui a fait le moteur, un autre moteur de l'évolution? C'est que Dieu nous a donné une intelligence et qu'on l'utilise intelligemment. Alors, des fois, on verra, est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'avec les OGM, mais en attendant, s'il y a un moteur, c'est parce qu'il y a un homme qui est doté d'une intelligence qui ne fait pas n'importe quoi. Si vous dites à les éleveurs, voilà, vous croisez n'importe quoi avec n'importe quoi, vous n'allez certainement pas aller bien loin. C'est parce que vous allez mettre de l'intelligence que vous allez créer des choses, des variétés, qui vont devenir de plus en plus productives, de plus en plus fortes, qui ont certaines capacités. Donc, génétique, l'intelligence, et donc on a parlé des mutations qui permettent cette variabilité extrêmement importante, donc ça c'est très important. Et qu'est-ce que je veux dire sur ce dernier point avant de passer au suivant? C'est que on n'a jamais observé d'organe, même un organe le plus petit soit-il, fait par une succession de mutations. C'est l'intelligence de l'homme qui va créer cette diversité ou le brassage génétique, mais l'information elle est préexistante et elle se diversifie. Et Dieu, quand il a créé deux chromosomes et qu'il a multiplié vous, il avait déjà potentiellement une diversité extraordinaire. Des milliards d'êtres dont aucun allait se ressembler étaient potentiellement dans toutes les combinaisons chromosomiques possibles. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, maintenant je voudrais aller sur un point, plan un peu plus philosophique. En fait, tout ce que nous croyons impacte notre vie. Si tout n'est que le fruit du hasard, des collisions, de la sélection naturelle, alors pourquoi pas l'améliorer un peu par l'avortement, tout ce qui est un peu avec un défaut, l'euthanasie, tout ce qui est un peu usé, l'eugénisme, tout ce qui ne nous satisfait pas dans nos critères, virons-le. Puisque la vie n'a pas de sens, l'homme n'a pas de valeur. Dans la théorie de l'évolution, ce qui gêne le chrétien, c'est pas que les choses évoluent, je viens de vous dire que je crois que tout évolue. Mais c'est le fait, le paradigme, c'est-à-dire le système de pensée, particulièrement pernicieux, que tout opère par hasard, sans but, sans sens, comme ça, par des cohésions aléatoires. Et ça, ça crée une pensée philosophique dramatique. Et si vous ne me croyez pas, je vous donne quelques exemples. Je vous ai tiré des livres de Darwin, dont certains, pour son 200e anniversaire, était prêt à faire le mettre presque au Panthéon, mais si peut-être vous aviez lu ses écrits, vous ne le mettriez pas au Panthéon. Voilà un petit passage que j'ai tiré d'un de ses livres. Avec les sauvages, les corps ou les esprits malades sont rapidement éliminés. Par contre, les hommes civilisés construisent des asiles pour les imbéciles, les handicapés et les malades, et nos médecins exercent le meilleur de leurs talents pour sauver la vie de chacun d'eux jusqu'au dernier moment, permettant ainsi aux membres faibles de nos sociétés civilisées de se propager. Il n'y a personne parmi ceux qui ont travaillé à la reproduction des animaux domestiques qui doutera que cela ne soit hautement préjudiciable à la race humaine. Voilà les écrits de Darwin. Il est cohérent avec lui-même. S'il croit que nous sommes que le fruit du hasard, on n'a pas plus de valeur qu'un animal, pourquoi on ne va pas faire comme un animal? Moi, quand j'ai un arbre qui bat de l'aile, je mets ma tronçonneuse, j'en replante un autre. Mais si c'est mon enfant qui est malade, je ne fais pas pareil. Parce que pour moi, c'est différent. Et Darwin, mais vous allez me dire, ça c'est vieux, Darwin s'est dépassé. Jacques Attali, est-ce que c'est si vieux que ça? Dans un de ses livres qu'il a sorti en 2005, qu'est-ce qu'il dit? Dès qu'il dépasse 60 à 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit, et il coûte alors cher à la société. En effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Voilà la société qui prône, si on croit à l'évolution, si on croit qu'on n'est que le fruit de hasard et de collision. Donc, la porte à... Et d'ores et déjà, ne croyez pas que c'est du... Je suis en train de faire du futurisme très lointain. Vous savez, le taux de trisomique 21 qui est éliminé en France, je ne sais pas, en Belgique, aujourd'hui, on est à plus de 90% qui sont éliminés. On n'est pas dans le systématique total, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on tue pas directement tous les trisomiques, mais plus de 90% sont éliminés avant qu'ils naissent. Donc on est déjà dans un moment où on a déjà appliqué ça. L'eugénisme, c'est un débat qui se fait dans la société française très fort. Et l'euthanasie aussi. Donc, c'est des choses, ce que vous aurez cru va conditionner la politique, va conditionner le social. Donc c'est des choses qui sont pas sans conséquences. On ne peut pas dire, oh, une théorie contre une autre, après tout, j'en ai rien à faire. Moi, si la théorie sur la chaleur, c'est plutôt de M. Paul ou M. Pierre, effectivement, ça ne vous impacte pas directement. Mais la théorie de l'évolution, même si vous n'êtes pas scientifique, ça vous impacte. Alors maintenant, puisque je suis dans une église, je vais me permettre de parler de choses un petit peu plus spirituelles. S'il y a des non-chrétiens, vous m'excuserez de cette parenthèse, mais ça ouvrira le débat, pour, si vous voulez, aussi sur ce point de la foi. Mais moi, quand je regarde la France, je m'excuse de parler de la France, mais je parle de ce que je connais, et je pense que la Belgique est quand même beaucoup influencée par la France, donc il y a beaucoup de similitudes. Il y a une opposition à la création beaucoup plus forte que dans les pays anglo-saxons. Et moi, je m'attendais, lorsque je me suis senti appelé à creuser ces domaines et à me mettre à étudier ça, à trouver un certain intégrisme qui allait être un peu anti-scientifique du côté créationniste. Et par contre, je pensais que les évolutionnistes étaient des gens honnêtes, intelligents, qui comme moi étaient tous des chercheurs, et qu'entre chercheurs, on a l'habitude de se disputer. Moi, dans tous les congrès, je me dispute avec mes collègues, mais non, mais si, mais ça, mais ça. Puis le soir, on se retrouve avec une bière, on est vachement copains, et c'est super, et c'est comme ça que la science avance. On se parle le débat, par la... Et quand j'ai commencé à traiter ces sujets, j'ai trouvé des gens, un intégrisme, une violence contre moi, des évolutionnistes qui refusaient le débat. Qui disaient, tu crois pas à ça, t'es nul, c'est pas de la science. Fondamentaliste, il trouve un anathème quelconque pour m'écarter, et j'ai pas trouvé ça du côté des créationnistes. Alors peut-être j'ai pas été aux bons endroits à trouver les bons fondamentalistes américains, parce que je suis en France, mais toujours est-il que, voilà, je l'ai pas trouvé, et j'étais surpris. Et je me dis, mais pourquoi la France, il y a une telle violence? Et je pense qu'il y a une réalité, une dimension spirituelle à ça. Et quand on regarde la Révolution française, eh bien on voit qu'il s'est passé des actes religieux qui ont une forte portée symbolique et spirituelle. C'est-à-dire qu'il a été décidé, dans un centre de ville de France, de prendre une jeune femme, de la revêtir de blanc, de mettre une couronne sur sa tête et d'écrire raison. Et de dire, et de prendre un mannequin, habillé de blanc également, de le mettre attaché derrière la charrette, avec écrit Dieu. Et on l'a baladé dans toutes les villes, ça s'est fait à Notre-Dame de Paris, ça s'est fait à Châtellerault, ça s'est fait dans différents endroits où on retrouve l'histoire. Et on a proclamé, à partir de maintenant, notre Dieu sera la raison. Dieu, c'est foutu, c'est fini. Plus de Dieu. La raison humaine est notre Dieu. Et ça, ça a un impact spirituel dont aujourd'hui encore, on a les conséquences. Aujourd'hui encore, donc moi, je suis en train de vous dire, on peut être chrétien, on peut aimer la raison, parce que la raison est un cadeau de Dieu. Mais à partir du moment où ça devient une idole, ce qui était un bénéfice va être un problème. Et vous pouvez avoir une raison, l'utiliser. La foi, c'est pas croire n'importe quoi. La foi, c'est quelque chose de raisonnable. Si vous croyez n'importe quoi, aujourd'hui vous êtes chrétien, demain vous serez autre chose, le dernier qui a parlé aura raison. Donc si vous avez une foi solide, c'est que vous avez pesé les choses. C'est que c'est que ça ne vient pas de n'importe où. Et la foi est quelque chose qui, Dieu nous a donné une raison pour l'utiliser. Mais si cette raison, on en fait notre Dieu, et on dit, moi, par ma raison, j'ai tout compris, je serai Dieu, là on en fait une idole qui devient notre malédiction. Et je pense qu'aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui nous pèse fortement dessus. En fait, toute théorie n'est qu'une limite. Je vous ai parlé du Big Bang, c'est une théorie. Elle est intéressante, moi j'aime cette théorie du Big Bang, etc. Mais tôt ou tard, elle sera remise en question. Toutes les théories humaines sont des théories qui donnent la meilleure description dans la connaissance du moment qui est toujours très limitée. J'ai toujours dit, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas grandit plus vite que ce qu'on sait. Donc par exemple les atomes. Atomes, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire? Atomos en grec, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper. Et c'était quand même super que ce grec, 400 ans avant Jésus-Christ, Démocrite, ait l'idée de dire, si je prends de la matière, je la recoupe en deux, il y aura un moment où je ne pourrai plus, j'aurai le grain élémentaire que je ne pourrai plus couper. Et c'est ça qu'il a appelé atome. Et pendant 2300 ans, tout le monde a plus ou moins cru à son idée, sans qu'on puisse la démontrer. Parce qu'on n'avait jamais vu un atome. Et puis, au début du XXe siècle, avec les rayons X, on a pu mesurer, on a commencé à faire la table de Mendeleïev, puis après on a fait des rayons X, on a dit, ouais, les atomes sont arrangés comme ça. On a pu visualiser, concrétiser, dire, oui, les atomes, c'est vraiment réel. Aujourd'hui, même avec certains microscopes, on arrive quasiment à les voir. Donc, c'est... Et là, on aurait pu dire, super, une théorie qui tenait par la foi, quelque part, pendant 2000 et quelques années, est démontrée par la science, c'est super. Donc, on ne peut pas couper les atomes et on les voit. Eh bien, peu de temps après qu'on ait démontré que l'atome existe, on l'a fissionné, on l'a coupé. Parce que, ça ne veut pas dire que c'était idiot avant, c'était au contraire fort intelligent. Mais ça veut dire que c'était déjà un grand progrès d'arriver jusque-là. Mais quand on est là, il y a une autre limite, on va la briser, et il y a autre chose. Et la fission, c'est justement couper ce qui n'est pas coupable pour faire deux morceaux et libérer de l'énergie. C'est un peu avant la guerre qu'on a découvert la fission, avant la Deuxième Guerre mondiale, on a coupé ces atomes. Et aujourd'hui, on progresse énormément dans l'infiniment grand, où on arrive à voir toujours plus loin dans le cosmos, et dans l'infiniment petit, où avec le CERN, à Genève, par exemple, pour parler que de l'Europe, on fait tourner des particules à toute allure, à une vitesse proche de celle de la lumière, on les fait se rencontrer, billes en tête, là, à une vitesse proche de la lumière, de manière qu'elles explosent complètement, et on arrive à identifier que tout ce qu'on croyait un morceau, eh bien, c'est plein de morceaux. Et donc, on va casser ces morceaux pour voir s'ils sont dans le ventre, et on va chercher tous les sous-morceaux, les quarks, les bosons, les ci, les ça. Donc, on va, et on se rend compte que la matière n'est fait que de vide. Que la matière, quelque part, elle n'existe pas. Si. Par exemple, je prends un atome, je le représente ici avec un noyau, des électrons qui gravitent autour. Si mon noyau au milieu, il est gros comme un ballon de football, mes électrons, ils sont à 50 km. Qu'est-ce qu'il y a à 50 km de Bruxelles ?
Charleroi.
Alors, ils passent à Charleroi. Les électrons, ils passent à Charleroi, ils font un tour comme ça. Voilà. Et entre les deux. Donc, vous voyez la probabilité, si vous baladez, que vous passez par là, dans la traversée de la Belgique, que vous rencontriez mon électron, il est très très faible. C'est que du vide entre les deux. Alors, on dit, oui, mais quand même, il y a ça. Hein, si tous les atomes, on les mettait ensemble, on aurait quand même quelques dés à coudre. D'accord ? Mais maintenant, quand tu regardes le noyau, il est lui-même comme un atome. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est que fait de vide au CERN, et qu'il y a quelques quarks par-ci, quelques leptons par-là, et que tout ça, c'est que du vide. Et qu'en fait, grand comme petit, la matière n'est faite que de vide. Et qu'en fait, c'est des forces qui donnent l'impression de matière par la manière dont c'est agencé. Et il y a un petit film qui a été fait au CEA, qui a été un concours d'idées, de la direction des sciences et de la matière, les cosmologistes et les gens qui travaillent sur la... en disant comment on pourrait expliquer au grand public nos recherches, parce que c'est un peu fumeux. Donc, et alors, ils avaient demandé à leurs chercheurs, et notamment à leurs thésards, de faire un film, et celui qui a été primé, je l'ai regardé. Il est assez intéressant, celui qui a été primé. Vous voyez, des parents qui offrent à leur enfant, pour son anniversaire, un microscope magique. Un microscope, il grossit à l'infini, autant que vous voulez, dans tous les sens. Alors, le gamin est ravi, il prend son microscope, il met un objet dessous, il commence à tourner, formidable, il voit des petits grains, etc., les agencements cristallins, puis oh, il descend, il zoome sur un atome. Oh, magnifique. Puis il zoome. Oh, le noyau. Oh, formidable. Oh, il voit le noyau. Puis il descend, et puis là, il voit tout un cosmos à l'intérieur du noyau. Alors il dit, oh, bon, je vais prendre un endroit de ce cosmos, il zoome à un endroit, il voit une galaxie, zoome à un endroit, il voit une planète, il zoome, c'est la planète bleue, il voit une forme, il zoome, c'est la France. Il zoome, il voit sa chambre. Tout d'un coup, il se voit dans le microscope, en zoomant un peu plus, en train de regarder en son objet. Et ce film, qu'est-ce qu'il voulait dire ? C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de tout comprendre, mais on trouve que l'infiniment grand et l'infiniment petit ont des similitudes qui se rejoignent complètement. C'est ça le message que voulait passer ce film. Donc, la physique, c'est passionnant, mais ça nous montre que la matière est essentiellement faite de vide, et que c'est les forces qui donnent l'impression. Si par exemple, je prends un morceau métallique, vous allez dire, là, il y a de la matière, là, il n'y en a pas. Supposons que ce soit métallique. Eh bien, si je suis un neutron, le neutron, c'est la petite particule neutre qui se bat dans les réacteurs nucléaires. Si je suis un neutron, pour lui, Là, il y a de la matière, là, il y a de la matière dehors, et là, il n'y en a pas. Parce que le neutron, il voit que la vapeur d'eau, lui. Donc, dans l'air, il y a de la vapeur d'eau, il voit de la matière. Et là, dans le fer, il n'y a pas de vapeur d'eau, il va dire, il n'y a rien. Donc, la matière dépend des récepteurs qui nous permettent de l'identifier. Et on se rend compte que la matière n'est fait que de vide, que le matériel est le résultat de l'immatériel. Alors, je ne veux pas trop aller foin en physique, parce que tout le monde n'est pas physicien ce soir. Donc, on va parler un peu science et société. J'ai bien aimé un bouquin américain, où il y a un gars, je pense, tel que je comprends de son livre, c'est un peu ce qu'on aurait dit en France, un 68-art. Un gars qui était parti, les cheveux longs, peace and love, etc. Et qui, sur le retour, est revenu en disant, finalement, je crois que je n'ai pas fait le bon choix. Et dans son livre, dont j'ai mis les références ici, j'ai pris une phrase. Il dit, pour moi-même, comme sans doute pour la plupart de mes contemporains, la philosophie de l'insignifiance. Vous voyez, la philosophie de l'insignifiance, c'est tout est dû par hasard, donc la vie n'a pas de but, pas de valeur, profitons-en, puisqu'on est le fruit des collisions atomiques aléatoires. Cette théorie de l'insignifiance, donc tout est le fruit du hasard, était essentiellement un instrument de libération permettant de nous justifier nous-mêmes dans notre révolte politique et érotique. Nier que le monde avait un sens quelconque permettait de nous affranchir de tout système de moralité. Et il faut bien voir que derrière ce qui a poussé certains choix, ce n'était pas vraiment des faits scientifiques. Et en fait, aujourd'hui, on en revient parce qu'on est, après avoir foncé à fond dans le matérialisme, on a un certain désenchantement du matérialisme. Si au cours des derniers siècles, l'idée de progrès qui fondait l'humanisme était venue supplanter l'idée de salut, qui était l'idée biblique qui régnait depuis 18 siècles après Jésus-Christ, aujourd'hui, cette philosophie scientiste qui était poussée par exemple par Auguste Comte et qui prétend que le progrès matériel engendre le progrès moral. Donc tout va aller de mieux en mieux puisqu'on... tout ça s'est battu en brèche depuis longtemps. On voit bien qu'on a tous des téléviseurs, des voitures, des machins, des iPhones, et qu'il y a autant de crimes, autant de malheureux, autant de solitude, autant de souffrances. Donc, le progrès matériel ne change pas le cœur de l'homme, ne crée pas. Et le scientiste disait, mais avant c'était des sauvages, mais maintenant avec le progrès, on devient de plus en plus civilisé, de plus en plus gentil. Ça ne marche pas. Alors, ce désenchantement du matérialisme pousse dans l'autre excès, parce que quand certains n'arrivent pas à nous détruire d'un côté, il cherche à nous détruire d'un autre. Donc, il va nous pousser dans une autre excès, c'est la science c'est nul, et je vais vous amener dans toutes sortes d'ésotérismes divers et rejeter complètement la science. Donc on va passer d'un excès, la science va tout me régler et m'expliquer papa, maman, pourquoi je me dispute avec ma femme, etc. Et puis d'un autre côté, on va passer dans la science, c'est nul, faut la jeter, elle nous a pas satisfaits. Et en fait, je voudrais vous faire un petit plaidoyer pour une science mise à la bonne place, une science modeste. La science a besoin d'être humble et de faire de la place à côté d'elle, à l'éthique, au social, au politique et au spirituel. Parce que la science ne donnera jamais le sens de la vie. Et l'homme a besoin de comprendre les questions existentielles de l'existence. Donc il a besoin d'autres choses à côté de la science. Mais ramener à sa juste place, c'est-à-dire limiter au domaine matériel, il faut reconnaître que la science nous a fait un bénéfice extraordinaire. Notre espérance de vie gagne une année tous les 5 ans depuis 50 ans. Ça, c'est le résultat de la science, qui est quand même extrêmement positif. Mais ce n'est pas ça qui peut fonder nos valeurs. Donc la science, à la fois, il ne s'agit ni de la rejeter parce qu'on va faire des choix irrationnels qui vont nous amener dans le mur au niveau de la santé, de l'énergie et de plein d'autres domaines, mais ni de croire que notre vie peut être fondée que sur une analyse scientifique parce qu'à côté de la science, elle a besoin de valeurs, elle a besoin d'éthique, elle a besoin de foi, elle a besoin d'autres choses qui fondent l'être humain. Et on ne peut pas ni la jeter, ni tout baser sur elle. La science doit accepter que les grandes décisions de la vie ne soient pas basées exclusivement sur la connaissance, mais aussi sur le sens, sur la conscience. En fait, là où je trouve que les scientifiques, en dehors de la théorie de l'évolution, font des abus de pouvoir, c'est quand ils réclament des crédits à grands cris en disant « Ça y est, je vais vous expliquer l'origine de la vie. » Et alors, ça marche et ils obtiennent des énormes crédits pour des... Mais ça, c'est du pipeau. Parce que jamais la science ne pourra expliquer l'origine de la vie. Nous ne savons pas ce qu'a déclenché le Big Bang. Aucun scientifique ne pourra vous dire qui a été derrière, qui a allumé cette étincelle, pourquoi c'était là, d'où venait cette énergie. On peut seulement savoir le comment ça a évolué. Nous ne savons pas ce qui déclenche un accouchement. Mais si, c'est l'hormone Tartampion. Mais qu'est-ce qui déclenche l'hormone Tartampion ? C'est la molécule X. Mais qu'est-ce qui déclenche? Oui, la science nous dit le comment ça marche, mais ne te dis pas le pourquoi. Nous mourrons tous si on ne sait pas pourquoi. Parce que dans la fraction de seconde qui suit ta mort, tes atomes sont au même endroit. Ce n'est pas une question de position atomique. Il y a quelque chose qui sous-tend la vie, qui est autre. Seule la Bible nous révèle le pourquoi de notre existence. Par exemple, on peut dire dans la théorie, alors s'il y a des physiciens, par exemple dans la théorie du modèle standard, on remonte dans le temps jusqu'aux fractions de secondes et on arrive 10 puissance, je crois, moins 43 secondes, le temps de Planck. C'est un temps minuscule. Et demain, un scientifique va dire, je vais vous casser ce temps que personne ne peut aller plus bas aujourd'hui avec toutes les théories de la physique, et je vais arriver à 10 puissance moins 52 secondes. Ça ne changera rien. Tu arriverais bien à 10 puissance moins 180 secondes. Ok, tu te rapproches, mais ça ne te donnera pas le pourquoi de la vie. Donc faire croire qu'en poussant la recherche, on va expliquer d'où la vie est apparue, c'est un leurre. Mais ça marche pour amener des crédits dans les laboratoires. En fait, si tu veux savoir d'où vient la vie, penche-toi sur la parole de Dieu. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Je crois qu'il y a des choix qui sont très pertinents dans la vie et d'autres qui peuvent être très tristes. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Dieu nous dit, c'est lui qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui, par son souffle, soutient la vie de tout ce qui vit. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur la surface de la terre. Il a fixé les périodes déterminées, établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, car nous sommes ses enfants. Ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Et c'est Dieu qui sous-tend notre vie. Et c'est lui qui nous invite à le chercher. Et tout ce dessein intelligent n'est qu'une invitation de Dieu. Par cette merveilleuse création, où manifestement, si tu as un peu d'honnêteté, tu vois que ça ne peut pas être par hasard, tu as envie de chercher qui est derrière ce dessein intelligent. Qui est derrière cette création extraordinaire qui nous émerveille. Comme l'a dit Louis Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. S'il y a un siècle, la Bible et la science pouvaient paraître contradictoires. Toutes les grandes découvertes du XXe nous rapprochent toutes de la pensée biblique, plus qu'elles ne nous en éloignent. Einstein lui-même disait « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne m'intéresse pas à tel ou tel phénomène, au spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître ses pensées. Le reste n'est que détail. » Il était déjà, sans le dire, on ne parlait pas à l'époque d'Einstein de dessin intelligent. Il était déjà dans la même démarche de dessin intelligent. Si on regarde Arnaud Penzias, qui est prix Nobel de physique, qui a découvert avec Robert Wilson le rayonnement thermique cosmologique, et dans une de ses conférences de 2006, j'ai pris un extrait d'une de ses conférences. Je trouve que c'est assez extraordinaire ce que nos meilleurs physiciens, ceux qui aujourd'hui font référence en cosmologie, qu'est-ce qu'ils écrivent ? L'astronomie nous conduit vers un événement unique. Il parle du Big Bang, là, dans son livre. Un univers créé à partir de rien, juste avec le délicat équilibre nécessaire à l'apparition de la vie. Un univers qui obéit à un plan sous-jacent, on pourrait dire un plan surnaturel. Pour être cohérent avec nos observations, nous devons comprendre que non seulement il y a eu création de la matière, mais aussi de l'espace et du temps. C'est exactement ce que la Bible dit. La Bible dit que le temps, Dieu vit dans l'infini, il n'y avait pas de temps, juste au moment où il a créé le monde, le temps a été créé, le temps n'est qu'une parenthèse. La physique moderne nous ramène à ça. La théorie de la physique relativiste nous amène que le temps a été créé au moment du Big Bang. Et qu'est-ce qu'il dit ? Les meilleures données dont nous disposons sont exactement ce que j'aurais pu prédire si je n'avais rien lu d'autre que les 5 livres de Moïse, les psaumes, enfin la Bible. Le Big Bang a été un instant de brusque création à partir de rien. Voilà ce que nos meilleurs physiciens aujourd'hui, en cosmologie, nous disent de leurs données techniques. C'est complètement en phase avec la Bible. Le Big Bang nous dit que le monde a un début, qu'il aura une fin. C'est quelque chose de nouveau qui a été combattu. Les premiers qui parlaient du Big Bang ont été combattus parce que les athées disaient « Mais non, c'est trop en phase avec la Bible. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le monde a toujours existé, il existera toujours, puis il y a des aléas, il y a des espèces qui vivent, qui meurent. » Et ça dérangeait beaucoup de gens. Donc il y a eu une opposition. Mais la physique nous dit, oui, le monde a un début, il aura une fin. La cosmologie nous apprend qu'à ce moment, non seulement il y a eu création de la matière, mais également de l'espace et du temps. La connaissance des atomes, tout ce que je vous ai parlé du CERN, nous révèle que la matière visible n'est en fait constituée que de vide, de grains d'énergie invisibles. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Accord total. Un monde dynamique qui évolue, pas du tout s'opposer à l'évolution, je parle de la théorie, l'évolution est un fait, mais un monde qui évolue vers un but, pas par hasard, avec des espèces qui se diversifient, mais quand, qui restent au sein d'une certaine espèce, et lorsque ça va trop loin, l'espèce disparaît. Oui, le monde évolue car nous avons un Dieu vivant qui a créé un monde qui a du sens, qui va vers un but, mais ce sont les théories qui extrapolent à l'infini de pseudo-constantes qui, à mon sens, font preuve de beaucoup de présomption. En fait, toute constante est une variable et toute variable est une constante. Donc, c'est ce qu'on apprend s'il y a un peu de scientifique dans la salle. Là, vous avez une courbe, on parle de la dérivée. N'importe quelle courbe sur une toute petite portion d'espace et de temps peut être prise, ça s'appelle la dérivée, comme une droite. Donc, n'importe quelle courbe qui est aussi exponentielle ou tordue qu'elle puisse être, vous pouvez la prendre sur un petit bout et elle va vous paraître linéaire. Si vous achetez un kilo de pommes de terre, si vous en voulez deux, il y a toutes les chances que ce soit linéaire. Et l'homme pense linéairement. Si ça coûte 1 euro le kilo, 2 kilos c'est 2 euros, 3 kilos c'est 3 euros. Et vous ne vous tromperez pas trop, tant que c'est dans cette échelle-là. Et l'homme pense linéaire. Donc il extrapole toujours ce qu'il a de manière linéaire. Ça coûte ça, il me faut 3 fois plus, ça va me coûter 3 fois plus. Voilà. Mais la physique n'est pas linéaire. La physique, elle est exponentielle. La biologie est exponentielle. De 2 font 4, tu vois. C'est des fonctions puissance. Le développement cellulaire n'est pas linéaire. En physique, c'est ce qu'on appelle la loi d'Arrhenius, c'est une exponentielle. C'est-à-dire que ça ne varie pas de manière linéaire avec la température, ça varie de manière qui s'accélère comme une exponentielle. Donc, la vie réelle, le monde réel n'est pas linéaire. Mais l'homme naturel linéarise tout. Et il va extrapoler des tas de constantes. Et moi, je pense que c'est très présomptueux d'extrapoler ces constantes sur des milliards d'années en linéarisant tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend à nos enfants à l'école. Et moi, les miens, je leur ai dit, moi, je t'informe que je conteste cette hypothèse. C'est ce qu'on appelle l'actualisme. C'est-à-dire, quand tu veux faire des datations, tu fais l'hypothèse que rien ne change par ailleurs, que tout ce que tu vois aujourd'hui, ça s'est toujours produit, ça se produira toujours. Ça s'appelle l'actualisme. Prenons, je vous donne un exemple simple. Supposons qu'on mesure la tectonique des plaques. On voit que l'Amérique se sépare de l'Europe. Hein. Vous savez que le monde est fait avec des grosses plaques qui flottent sur un magma fondu et qui se déplacent, ce qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est ce qui crée, il y a des fois, quand les plaques se rencontrent, ça fait des tremblements de terre, ça peut faire des volcans, parce que là, ça casse la plaque à la fissure et la lave peut sortir. Donc, voilà. Donc ces plaques se baladent. Et ce qu'on appelle la Pangée, c'est quand les continents étaient rapprochés, on voit bien que la forme de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, etc., c'est qu'à un moment, ça devait se toucher. Donc, ça s'écarte. Tu vas mesurer, allez, je n'ai pas les valeurs, mais supposons 1 cm chaque année. Tu vas dire, ok, il y a 10 000 km, donc il y a 1 million d'années, ça se touchait. Mais là, tu fais de l'actualisme, c'est-à-dire que tu dis, alors si tu extrapoles ton centimètre en disant, il y a 100 ans, c'était 1 mètre, tu ne vas pas te tromper beaucoup, parce que ton extrapolation, elle est raisonnable. Mais si tu l'extrapoles sur des millions et millions d'années, là, tu risques de te planter complètement. Parce que qu'est-ce qui fait que ça bouge plus ou moins vite? C'est la viscosité du magma. Qu'est-ce qui fait la viscosité du magma? Sa température. Qu'est-ce qui fait sa température? Sa radioactivité. Et qu'est-ce que tu sais, la radioactivité du magma, il y a 1000 ans? S'il était un petit peu plus élevé, qu'il y avait des isotopes un peu différents, la viscosité serait différente, ça peut se déplacer d'un mètre par an, de 10 mètres, de 100 mètres. C'est une exponentielle, les lois d'Arrhenius. Donc, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, quand je vous dis toute variable est une constante, je vais vous donner quelques exemples. Et toute constante est une variable. Et tous les grands progrès de la physique sont venus lorsque quelqu'un était assez gonflé pour penser qu'une variable était une constante était variable. Tous les grands progrès de la physique sont venus comme ça. Par exemple, si tu prends l'eau, un niveau d'eau, et tu fais ta maison avec un niveau d'eau, tu dis l'eau c'est plat. À l'échelle de ta maison, c'est nickel, il n'y a aucun problème, ta maison sera plate. Mais déjà, si tu vas à la mer l'été, tu vas voir que c'est déjà plus vrai au niveau de l'horizon. Quand tu regardes l'horizon d'un bateau, tu vois déjà la courbure de la Terre. Donc l'eau est plus plate à l'échelle de la Terre. Si tu prends un laser et tu construis ta maison avec un laser pour que ce soit bien droit, pas de souci, ta maison sera droite. Et au niveau de la Terre, ça restera vrai. Tu peux envoyer un laser sur la Lune, le faire réfléchir, etc. Ça reste droit. Mais quand tu fais de la cosmologie et que tu arrives près des trous noirs, la lumière se courbe. Et ce qui était vrai à une échelle de temps et d'espace n'est plus vrai. Donc tout ce qui est une constante n'est vrai qu'à une certaine dimension d'échelle et de temps. et extrapoler à toute dimension d'échelle-temps ce qu'on mesure sur la Terre, et ne pas dire, pas prendre des précautions oratoires, bien sûr, on peut faire des théories et prendre des précautions, mais de dire, c'est comme ça, le monde, ce Big Bang s'est passé il y a 13,7 milliards d'années, je trouve que c'est assez osé, parce que tu ne dis pas toutes les hypothèses sous-jacentes. Combien de temps tu me laisses encore ? 5 minutes ? Parce que j'ai beaucoup parlé ce soir, alors je vais passer vite. Mais les données génétiques, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, elles permettent de remonter, non pas au saut d'espèces qui, lui, n'a jamais été trouvé, mais au fait que dans les espèces, il y a un ancêtre unique. On le retrouve pour l'homme, on le retrouve pour la vache. C'est quand même assez intéressant de voir les dernières données de la génétique qui disent que l'homme doit tous venir d'un être unique et même dont on essaye de trouver les chemins par lesquels il se serait répandu pour occuper le monde, qui sont assez voisins des fils de Noé d'une manière assez étonnante. L'ADN, c'est l'empreinte d'un Dieu créateur unique. Et certains vont vous dire, le fait qu'on soit proche, par exemple, du chimpanzé, c'est la preuve que, vous savez, d'abord, on n'a fait qu'au début que comparer l'ADN dit codant. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il faut prendre la globalité pour faire des comparaisons. Et quand on regarde la globalité de l'ADN, la ressemblance de l'homme avec le chimpanzé, elle passe de 98% à 66%. Donc ça tombe énormément. Si on compare avec celle de la banane, c'est 60% de ressemblance. Celle du ver de terre, 75%. Donc c'est pas une preuve que l'un descend de l'autre. C'est une preuve qu'un créateur unique a pris les mêmes outils, les mêmes matériaux pour créer tout ça. Si vous voyez des tableaux qui se ressemblent, vous allez dire, oh là, c'est du Van Gogh, je le reconnais. Vous n'allez pas dire, ce tableau est le fils de celui-là qui a donné celui-là, qui a donné celui-là. Mais vous allez dire, je retrouve la touche d'un même peintre. Et dans l'ADN du singe, du ver de terre, ça, on va retrouver la touche, effectivement. Dieu a pris les briques à ses voisines, le fonctionnement de l'ADN, pour faire tout ce qui est biologique. L'âge de la Terre, j'en ai dit quelques mots. C'est un débat que moi, je me refuse de rentrer dedans. Soit certains qui s'arc-boutent sur 13,7 milliards d'années comme s'ils étaient capables de garantir que les périodes radioactives étaient constantes et ne changeaient jamais dans le temps, de garantir que la vitesse de la lumière a toujours été celle qu'on mesure aujourd'hui et qu'elle n'a jamais changé dans le temps. Donc il y a plein d'hypothèses sous-jacentes que moi je serais extrêmement prudent. Mais je ne suis pas non plus en train d'affirmer 6000 ans parce que je pense que ni la Bible ni la science ne nous permettent d'avoir des positions trop dogmatiques. Dans la Bible, il y a des tas d'endroits où on écrit Jésus, fils de David, c'est purement allégorique, c'est-à-dire une descendance, ça ne veut pas dire que David était son père. Donc il y a des endroits où, dans notamment certains endroits de l'Ancien Testament, on voit des domaines où les hommes vivaient très longtemps, etc., où il y a un certain flou. Moi, je ne crois pas qu'il faut chercher à faire dire plus que ce que Dieu a bien voulu nous révéler. Donc moi, il y a des domaines où je reste prudent. Par contre, dans les deux cas de figure, je me méfie d'extrapoler à l'infini des temps extrêmement longs, sachant que mon extrapolation sera toujours linéaire, et que la vie n'est pas linéaire. Mais depuis la théorie de la relativité, Einstein, de nouveau, a remis la physique en phase avec la Bible. La Bible dit, le temps est relatif, 1000 ans est comme un jour, et un jour qui est comme 1000 ans pour Dieu. Eh bien, la relativité dit la même chose. Quand je discute avec mes copains cosmologistes, qu'est-ce qu'ils me disent ? Vu de la Terre, le Big Bang nous paraît être à 14 milliards d'années. Vu de la Terre. Mais si on se plaçait sur une autre planète, si on se plaçait sur une particule qui se déplace proche de la vitesse de la lumière, ça pourrait être 6 jours, ou ça pourrait être 6000 ans, ou ça pourrait être... Tout dépend de la vitesse de l'observateur. Alors moi, quel est le point de vue de Dieu ? D'où Dieu observe ? Je ne sais pas. Et je pense que la Bible nous donne le point de vue de Dieu, et nous, vu de la Terre, ça donne l'impression d'eux. Voilà, je trouve beaucoup plus sage de dire, vu de la Terre, en extrapolant nos données à l'infini, on arrive là. Et je trouve que cette extrapolation est intéressante, parce qu'elle donne une chronologie. Mais de là à croire que c'est absolu dans la datation, moi je ne le crois pas. Donc, gardez une grande humilité. Niels Bohr disait déjà, la science ne décrit pas l'univers tel qu'il est, mais comme l'homme le ressent. Et c'est ce que dit la Bible. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité, et même nos prédictions les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Ni intellectuellement, ni spirituellement, on ne peut tout appréhender. Et je pense qu'il est important de rester humble. Mais pour celui qui veut bien le voir, toute la création parle du Créateur. Je vais passer vite là-dessus. Mais seuls ceux qui l'ont cherché de tout leur cœur sont devenus chrétiens. La Bible nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le fait de croire à l'intelligent design ne va pas faire de vous changer votre vie. C'est après, vous en faites ce que vous voulez. Vous dites, il y a un horloger, je m'en fous. c'est vos trois. Mais vous pouvez aussi dire, je voudrais le connaître. Et là, ce n'est pas la science qui peut vous aider pour le connaître. Là, c'est de chercher Dieu dans votre chambre. C'est peut-être de vous inspirer de l'Évangile. C'est peut-être de voir des chrétiens avec qui vous pouvez prier. Demander à Dieu qu'il se montre à vous. Il y a différents... Mais ce n'est pas l'approche. La science, elle vous amène au bord. Elle vous dit, il y a un créateur. Mais elle s'arrête là. Voilà. Déjà, Einstein, en 1921, disait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'énergie atomique, mais c'est le cœur des hommes. Aujourd'hui, je dis pareil. Et je vais conclure, parce que j'ai été bavard. Dieu a créé le monde, il nous l'a donné en partage. Il nous a donné des sens et une intelligence pour l'explorer. Et à travers sa création, révéler qu'il y a un créateur. Il nous donne et nous donner envie de le connaître. Il nous a donné sa parole, la Bible, et un cœur pour le connaître, lui, par la foi. Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous ayons la vie. Les faits scientifiques et la parole de Dieu ne s'opposent pas mais se complètent, car ils viennent tous les deux d'une source unique. La Bible ne pose aucun problème aux scientifiques chrétiens. Ce sont les théories des hommes qui s'opposent à la parole de Dieu, car en fait, l'homme est rebelle par nature et s'oppose à Dieu. Voilà, je vous remercie.